comme Chirac Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizis tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Bonjour chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois une avocate. Bonjour maître. Alors, Marianne Leloup-Dassonville, vous avez commis un premier ouvrage qui a pour titre « France, terre d'écueil ». Et le sous-titre du livre, c'est « Au cœur de la maltraitance administrative des étrangers ». Donc nous allons parler de l'accueil des étrangers en France. Alors, contrairement à ce que prétend un certain Bruno Retailleau et ses collègues, c'est pas le pays de cocaïne, la France, loin s'en faut. Et heureusement qu'il y a des avocats et des avocates comme vous, maître, pour vous occuper d'adoucir la maltraitance administrative des étrangers en France. Alors, avant de commencer notre propos, je voudrais dire un mot sur votre éditeur. C'est Rue de l'Échiquier et c'est la collection Les Incisives.
Tout à fait. Bonjour Mariama, merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, la maison de la rue de l'Échiquier, c'est une très belle maison d'édition, indépendante, c'est important de le mentionner aujourd'hui, et qui m'a confié la rédaction de cet opus sur l'immigration en France.
Voilà. Alors, quand on ouvre l'ouvrage, on a une petite bio sur vous. Donc, vous êtes avocate des étrangers, en droit des étrangers à Paris.
Et surtout, vous avez mis en lumière les histoires et les parcours des réfugiés avec un projet qui s'appelle The Odyssey Project.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme ça que j'ai mis le petit doigt dans le sujet de l'immigration au début. C'est dans les années 2015-2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la photo du petit Aylan qui s'était affiché dans tous les médias.
Oui, le 2 septembre 2014, très
tout
précisément.
Tout à fait. Et qui m'avait bouleversée, comme je pense que ça nous avait tous bouleversés, parce qu'on peut pas voir le corps d'un enfant mort dans les bras de ses parents sans réagir. Cet enfant fut-il étranger, fut-il réfugié en quête d'asile. Et j'ai décidé de faire quelque chose. C'était un projet que j'ai fondé avec un associé qui est un photographe portugais. Et pendant plusieurs années, nous sommes allés dans des villes en Europe ou au Moyen-Orient pour interviewer des personnes réfugiées ou demandeuses d'asile avec cet angle particulier qui était celui de raconter des histoires positives parce que on en avait marre du misérabilisme sur le sujet et on voulait montrer les opportunités pour les pays d'accueil de recevoir ces personnes qui ont des talents. Alors il y avait des entrepreneurs, des artistes, des militants, des bénévoles, voilà, des gens qui apportent des choses à nos pays qui sont les pays d'accueil.
Bien. Alors, vous êtes bénévole. Alors, vous dites bien dans votre livre que le bénévolat, c'est la première personne que l'on aide vraiment, c'est soi-même.
Oui, c'est un peu un cliché de dire ça. En tout cas, je pense que ça peut sembler l'être pour les personnes qui ont jamais fait de bénévolat. Mmh. Mais je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait du bénévolat dans leur vie voient à quel point ces mots ils sont pas clichés justement. Ils résonnent tellement vrais. On commence à en faire en se disant bah moi je veux aider les autres. Et puis on se rend compte que la première personne qu'on aide c'est soi effectivement.
Bien. Alors, vous avez une introduction, le texte de votre livre et un épilogue. Et vous donnez la parole à en citant un très grand confrère décédé en 2024, Maître Henri Leclerc. Et je voudrais lire ce que vous dites, parce que ça va poser le sujet tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Maître Leclerc disait « Ils sont toujours là, nos vieux adversaires ». Nous les connaissons bien. Ils s'appellent l'arbitraire qui menace les libertés, l'intolérance qui détruit la fraternité, le racisme qui nie l'égalité, l'individualisme qui tue le citoyen. Elle est toujours présente, la misère, cette insulte à la dignité, et devant nous, dresser tous les pouvoirs dont on abuse.
Oui, il a eu ces mots à l'occasion de l'anniversaire de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, il y a plusieurs dizaines d'années, si je me souviens bien. Et malheureusement, ces mots sont toujours et même encore plus d'actualité aujourd'hui.
Alors, vous pointez la période de l'occupation et vous faites le parallèle avec notre période et avec la diffusion de fausses informations qui nous empêchent de faire société. Parce que, en fait, tout le discours haineux contre les étrangers masque une réalité, c'est un manque de justice sociale, en fait.
Oui, c'est un manque de justice sociale. Je pense que les immigrés sont les figures sacrificielles qu'on nous jette en pâture.
Les boucs émissaires.
Oui, les boucs émissaires, exactement. Voilà, qu'on nous jette en pâture pour pas qu'on regarde de trop près comment fonctionne le système et qu'on commence à accuser, à mon sens, ceux qui sont les vrais coupables du manque de justice sociale, de l'augmentation
des inégalités
épouvantables qu'il y a, des inégalités exactement, les ultra-riches qui deviennent de plus en plus riches, les services publics français qui s'effondrent, que ce soit l'éducation, la santé, etc. Et donc on nous montre les immigrés comme s'ils étaient le problème. Or, moi, dans ma pratique quotidienne, mmh. puisque c'est ça mon métier, et de ce que je vois de l'immigration, c'est que, d'une part, je ne vois pas ces fameux profiteurs. Alors, on voudrait nous faire croire que les personnes sans papier sont en France pour profiter du système social français. Or, ils ne bénéficient d'absolument aucun droit social.
Parce qu'ils sont sans papier, justement, et ça, on oublie de le dire.
Exactement, exactement. Par contre, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que 90% des hommes en situation irrégulière travaillent.
Voilà. Oui. Ils travaillent. Ils payent des impôts.
Exactement.
Ils participent à la vie de la société. Et ce qui est de bien dans votre propos, c'est que vous montrez que dans les personnes de l'immigration, la moitié sont des femmes. Et ça, c'est une réalité qu'on aborde peu.
Tout à fait. En fait, vous faites référence notamment au début du livre, il y a une petite note où voilà, je précise que parce que j'ai eu la tentation d'écrire ce livre avec l'écriture inclusive. Mm-hmm. Ça me semblait pertinent pour bien montrer justement que la moitié des personnes en situation de migration sont des femmes et qu'on l'entend pas quand on dit les immigrés ES. Voilà, on n'entend pas que la moitié sont des femmes. Pour des raisons qui tenaient principalement au fait que je souhaitais être lue par des personnes aussi qui malheureusement s'arrêteraient au fait que mon livre était écrit en écriture inclusive, je l'ai pas fait, mais je tenais beaucoup à cette petite note pour le rappeler.
Oui. Alors, dans les histoires de femmes, la première que j'ai choisi d'aborder avec vous, qui va être dans cette première partie, c'est celle de Joy. Donc, son prénom a été changé,
évidemment,
pour respecter son anonymat. Je voudrais que vous expliquiez son parcours et que vous montriez à quel point il y a une maltraitance administrative. Et vous le dites bien dans l'introduction, vous dites « Voilà le parcours du combattant que l'administration française, en autre nom, impose à ces personnes qui ont tout quitté, tout perdu. »
Bien sûr, c'est important de se souvenir que tout ça est fait en notre nom, à nous, Français. Moi, parfois, je vous jure que je vois des situations tellement épouvantables dans mon cabinet en consultation que je m'excuse auprès de mes clients de ce qui leur arrive, parce que je me sens aussi en partie responsable, parce que je suis Française, que j'ai le droit de vote, que voilà. L'histoire de Joy, elle est... alors, c'est évidemment une histoire unique, mais malheureusement, elle est l'histoire, voilà, de dizaines de milliers, centaines de milliers de jeunes femmes nigérianes. Joy est donc nigériane, elle vient plus précisément de la région de l'Edo, au Nigeria. Un jour, quelqu'un qu'elle connaît au marché lui propose lui demande voilà, si elle voudrait venir vivre en France. Parce qu'elle pourrait y être coiffeuse. Donc elle pense qu'elle va tresser des cheveux dans un salon de coiffure. Et avant qu'elle parte, on lui fait faire quelque chose qui est là aussi typique de ce parcours des femmes nigérianes. C'est la cérémonie du Juju, qui est une cérémonie de sorcellerie, en fait. Voilà, sans trop entrer dans les détails, elle va promettre d'une part de rembourser la dette qu'elle aura à l'égard du réseau qui va la faire arriver en France, dont on lui dit qu'elle est d'environ, je sais plus, 50 000 euros. Quoi,
c'est plutôt 60 000.
Oui, voilà. Et on lui fait également promettre son obéissance
totale
au réseau pendant le temps où elle sera en France, etc. C'est de la sorcellerie. Alors on peut nous en rire, si on veut, de nos postures d'Européens blancs, etc. Mais c'est pas drôle du tout, parce que Joy...
C'est une véritable emprise.
C'est une véritable emprise, et Joy y croit, et sa famille y croit, et donc c'est un système de domination, comme l'ont été d'ailleurs toutes les religions. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein.
Non.
Et donc, quand Joy arrive en France, dès le premier soir, on lui explique qu'en fait, elle n'est pas du tout là pour travailler dans un salon de coiffure, mais qu'elle est là pour faire le trottoir, pour se prostituer, auprès d'hommes, notamment français, j'ai mis les chiffres, je crois que c'est 40% des hommes parisiens ont déjà eu recours au service d'un travailleur ou d'une travailleuse du sexe.
Il y a entre 30 et 44 000 prostituées en France.
Exactement.
Donc c'est la traite humaine. Et 93% sont des étrangères, notamment d'origine d'Afrique subsaharienne, et elles sont systématiquement ou quasiment toutes sans papier.
Tout à fait. Et ces chiffres, ils sont importants parce que ça change la perspective qu'on a sur le sujet. Moi, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir une discussion sur la légalité de la prostitution. Pourquoi pas ? Mais là, en fait, c'est pas le sujet. On parle de la traite d'êtres humains. C'est de l'esclavage, notamment sexuel, de femmes isolées, qui sont les personnes les plus vulnérables du monde, en tout cas dans nos pays.
Des mineurs aussi, parce qu'il y a...
Exactement, énormément de mineurs. Je crois que l'âge moyen de début de la prostitution en France...
C'est 12 ans.
C'est 12 ans, mais c'est hallucinant que ce ne soit pas une priorité de nos gouvernements, en fait.
Ah non, pas vraiment.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que c'est dû notamment au fait que la plupart de ces femmes, ces jeunes filles, sont étrangères ou racisées. Je pense que c'est un des nœuds du problème. On explique à Joy qu'elle va devoir rembourser sa dette en faisant le trottoir. Et au début, évidemment, elle ne veut pas le faire, elle résiste. Et donc, elle est battue, menacée, jusqu'à ce qu'en fait, elle soit brisée et qu'elle accepte son triste sort. Sauf que Joy, elle est hyper débrouillarde et hyper intelligente. Et elle va tenir les comptes de toutes les passes qu'elle fait. C'est horrible parce que quand je dois penser au nombre de passes qu'il faut faire pour rembourser 60 000 euros, c'est...
Vous faites le calcul.
Voilà. Elle tient les comptes et puis au bout de quelques années, elle va voir sa madame. Donc sa madame, en fait, c'est une proxénète qui est nigériane également et qui est celle qui gère l'appartement où sont rassemblées les femmes. Et elle lui dit, moi j'ai terminé de rembourser ma dette, donc maintenant je veux partir, je veux que vous me rendiez mon passeport et je veux partir. Donc évidemment, sa madame refuse, détruit les comptes qu'avait fait Joy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès son arrivée, c'est là qu'on voit que ces réseaux sont terriblement organisés, le réseau lui avait fait déposer une demande d'asile, parce que c'est dans leur intérêt que les femmes qu'ils contrôlent aient un titre de séjour, puisque ça veut dire qu'elles pourront rester. Voilà. Il lui avait donc fait déposer une demande d'asile.
Et même celles qui les gardent ont des demandes d'asile.
Elles ont obtenu l'asile. Tout à fait. Et c'est ça, j'en parlerai dans un second temps, parce que ça, on comprendra mieux comment sont traitées ces demandes. Joy avait déposé avec le réseau une demande d'asile, et donc ça, moi, je l'ai eu entre les mains, et c'était une histoire abracadabrante d'homosexualité. Pourquoi je dis abracadabrande ? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude d'accompagner des demandeurs et des demandeuses d'asile LGBT, donc je connais les histoires, les façons de
leur
raconter
profil,
ce qui se passe, etc. Et là, quand on lisait l'histoire de Joy, on avait l'impression de lire un scénario d'un très mauvais film porno qui aurait été imaginé par des hommes, en fait. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Et donc, avant même que Joy me dise que ce récit était faux, je savais que ce récit était faux. C'était une évidence. Donc évidemment, elle n'avait pas eu l'asile à ce moment-là, puisque ni l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la CNDA, la Cour nationale des droits d'asile, ne s'étaient laissé prendre à cette histoire. Et donc, Joy va profiter de ce que sa madame est partie quelques jours en voyage pour s'enfuir de l'appartement avec une de ses condisciples et essayer de s'en sortir toute seule. Et elle va vouloir déposer une autre demande d'asile. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, vous ne pouvez pas déposer une autre demande d'asile. Ça va être ce qu'on appelle immédiatement, va être qualifié en une procédure de réexamen. Cette qualification juridique, elle a tout un ensemble de conséquences qui font qu'il y a moins de garanties, je veux dire, procédurales pour la personne qui déposerait une demande de réexamen. Et surtout, elle est conditionnée au fait qu'il faut qu'il y ait des faits nouveaux. Et il est traditionnellement admis, et par l'OFPRA et par la CNDA, qu'une victime de traite qui aurait déposé une première demande encadrée, on va dire, par son réseau, et qui ensuite voudrait déposer une autre demande une fois qu'elle est libérée de ce réseau, ça constitue un de ces faits nouveaux qui permettent le dépôt d'une demande de réexamen. Mais pour ça, il faut aller déposer une plainte contre le réseau. On peut s'interroger sur cette condition qu'on impose parce que elle met évidemment grandement en danger ces femmes
et leur famille qui est restée sur place
hein, parce que enfin voilà, il y a un certain nombre de femmes que suite au dépôt de plainte on n'a jamais retrouvées et c'est évident que elles sont mortes quelque part en fait. Voilà, bon, Joy a été déposée plainte seule. Et alors, je ne voudrais pas accuser la police française d'irrégularité, mais c'est très étonnant. Il n'existe aucune trace de cette plainte dans les registres de la police. Et la police n'a donné aucun récépissé de dépôt de plainte à Joy. Voilà. Enfin, moi, ça me consterne. Ça me consterne. Que des officiers de police judiciaire française puissent décider sciemment de ne pas prendre la plainte d'une femme noire victime de traite, je trouve ça hallucinant. Et donc, quand Joy est venue me voir à mon cabinet, nous avons décidé de l'accompagner au commissariat pour que le dépôt de plainte, cette fois-ci, soit pris correctement, ce qui a été le cas. Nous avons ensuite pu déposer cette fameuse demande de réexamen de sa demande d'asile, en racontant cette fois la véritable histoire de Joy. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un problème qui est que il y a quelques années, lors de descentes dans des maisons de prostitution, les officiers de police judiciaire se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des madames, donc des proxénètes, qui non seulement avaient des papiers, mais avaient ces papiers parce qu'elles avaient obtenu l'asile, et avaient obtenu l'asile en disant qu'elles étaient victimes de traite. Donc évidemment, c'était extrêmement problématique. Et donc, au fur et à mesure, la Cour nationale du droit d'asile a développé une jurisprudence pour, comment dire, contourner ce problème, parce que c'est vrai que c'est problématique. Et donc, à présent, elle demande, lorsque une Nigériane demande l'asile sur le fondement de ce qu'elle a été victime de traite, il demande qu'il y ait eu un dépôt de plainte, il demande que, également, elle soit sortie du réseau. Comment est-ce qu'on prouve la sortie du réseau ? Eh bien, en prouvant qu'on a été pris dans un parcours de sortie de prostitution, un PSP. Le problème, c'est que il y a, alors je sais plus, c'est 80 places par an, enfin c'est complètement
80
ridicule.
Par an, il y a 564 femmes qui ont été prises en charge depuis 2016 dans ce dispositif.
Voilà. Vous imaginez, c'est ridicule.
C'est 80 par an.
Voilà, mis au regard du nombre de personnes en situation de prostitution et plus particulièrement de traite, victimes de traite, voilà. Voilà.
Il y a une association qui dénonce ça, c'est le NID.
Oui, exactement.
Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas, on peut faire des dons en ligne. Oui.
Il faut un travail remarquable. On peut aussi faire du bénévolat auprès d'eux. On a besoin de personnes pour accompagner ces
femmes. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de venir à la radio, mais je lance un appel pour les aider.
Exactement. Moi, je me suis retrouvée avec... à harceler, vraiment c'est le comble pour une avocate, à harceler de mes appels une personne d'une association qui avait suivi Joy pendant plusieurs années et qui, au moment où on déposait le réexamen, la demande de réexamen de Joy, faisait partie d'une association où elle pouvait obtenir des places en PSP. Mmh. Et voilà, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, je l'ai embêtée pendant plusieurs mois. Le temps qu'on ait en fait la date d'audience et Joy a obtenu un placement en PSP 10 jours avant son audience, donc c'était vraiment
un miracle,
ric-rac. Ouais, c'était miraculeux. Mais donc ça voulait dire que le jour de l'audience, Joy avait été placé en PSP, voilà, qu'on remplissait sur le papier toutes les conditions. On a eu l'audience donc à la CNDA et donc c'était à juge unique. Ça veut dire qu'il y a un seul juge pour décider de la vie de Joy, ce qui pose problème dans plein de dossiers parce que la collégialité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs juges, en général trois, dans toutes les juridictions françaises, c'est un gage d'impartialité. Voilà.
Surtout qu'on a appris qu'un juge était follement raciste.
Et homophobe,
ouais.
Oui, ce qui est problématique. Donc un juge de la CNDA qui n'officie plus à la CNDA depuis...
Il était temps, grâce à Mediapart.
Exactement.
Qui a fait l'enquête.
Oui, et il y a de nombreux confrères et consoeurs qui se sont mobilisés sur le sujet. Et donc vous imaginez, Joy, elle serait tombée devant ce magistrat.
Elle était foutue.
Voilà, elle était foutue. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir un magistrat extrêmement humain, puisque au début de l'audience, la rapporteure de la CNDA qui résume le cas et qui pointe les éventuelles difficultés avait dit qu'il faudrait que Joy reparle de toutes ces années de prostitution pour qu'on soit sûr que vraiment elle s'était prostituée. Et donc le magistrat, oui, vous imaginez. Et donc le magistrat a commencé en disant qu'on allait s'épargner ça, que c'était établi. Et déjà, voilà, c'était un grand soulagement et pour Joy et pour moi, parce que
vous êtes là pour protéger votre cliente.
Exactement. Et on est là pour les protéger, mais on est aussi là pour qu'ils aient l'asile. Alors parfois, on est dans une posture où on se dit, bon, ben, ça va être dur, il va falloir reparler de tout ça, mais on va le faire parce que j'ai pas envie de braquer le magistrat, sa vie entre ses mains. Et voilà. Donc, mais c'était un soulagement. Et donc, il a surtout voulu vérifier qu'elle était sortie de la prostitution. En fait, c'est pas juste sortie du réseau, c'est qu'on vérifie aussi qu'elles sont sorties de la prostitution. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, on attend d'elles qu'elles survivent comment ? C'est un vrai sujet.
Sans qualification, souvent, pour la plupart. Qu'elles peuvent monnayer en France, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des qualifications.
Non, bien sûr. Mais comme souvent, elles sont quand même prises très jeunes. Elles ont rarement eu le temps de faire des études. Et quand c'est peut-être pas forcément elles qu'on va venir voir pour leur proposer de partir. Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on quitte son pays, sa famille et tout ce qu'on n'a jamais connu ?
Avant 30 ans.
Voilà. Et en général, c'est même plutôt
25 ans.
25, ouais, voilà. C'est qu'on est assez désespéré, enfin qu'on a en tout cas assez peu d'espoir dans son pays. Si on a fait des études, on fait moins ça quand même. Pardon, j'ai perdu le fil.
Donc il faut prouver qu'elle survive.
Voilà, qu'elle survive sans se prostituer et voilà. Et moi, je trouve ça quand même... Enfin, ça me questionne parce que, voilà, je me dis, elles sont censées se débrouiller comment ? En sachant que, quand on est en réexamen, on ne touche pas l'allocation du demandeur d'asile et on n'est pas non plus hébergé. Ces femmes sont extrêmement vulnérables. On sait également que pour les femmes qui se sont déjà prostituées, c'est très dur de ne pas y retourner. C'est un vrai problème.
Et surtout qu'économiquement, la France ne va pas si bien que ça. Et donc, les postes à... Pour des personnes qui ont ce profil, qui accepterait de leur donner leur chance.
Exactement. Donc voilà, il a fallu prouver qu'elle était, en tout cas sortie de la prostitution, qu'elle était bien hébergée dans ce dispositif qui est en province, parce que ça permet aussi de les éloigner des centres, des réseaux qui sont plutôt à Paris. Et le président semblait quand même plutôt satisfait de ses réponses. On ne sait jamais, évidemment, jusqu'à ce qu'on ait le délibéré, donc plusieurs semaines après. Mais le président semblait plutôt satisfait. Et puis, à la fin, quand il lui a eu posé toutes les questions, il lui a posé une dernière question. Et il lui a dit, si jamais vous obteniez la protection de la France, qu'est-ce que vous feriez ? Et Joy, qui est une jeune femme toute menue avec une toute petite voix, a dit en anglais, puisque c'est comme ça qu'elle s'exprimait, I would like to live a better life than this.
Ah ouais.
Voilà, je voudrais vivre une meilleure vie que ça. Et c'était
le cri du cœur.
Ouais. Et ensuite, c'était à moi de plaider, puisque c'est comme ça que se passent les audiences. Et j'ai dû voilà, parce que ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai trouvé qu'il s'était passé quelque chose dans cette audience qui malheureusement ne se passe pas dans toutes les audiences, qu'on avait un peu réparé quelque chose, vous voyez, toutes ces années, parce que
elle Joy, est en osmose.
Elle aura passé
8 ans,
voilà, en France, dans des situations d'une misère voilà, épouvantable à vivre toutes ces violences, parce que c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est au cœur de la maltraitance administrative, c'est que il y a bien sûr la maltraitance qu'a subi Joy de la part
du réseau
évidemment, mais la France et toutes ces institutions, enfin en tout cas de nombreuses institutions françaises, ont continué de maltraiter Joy, et ce jour-là, ce magistrat qui représentait la France, il a permis de réparer un petit peu ça. Et donc voilà, sans grande surprise, on a obtenu le statut de réfugié. Et voilà, Joy vit sa vie maintenant.
Grâce à vous, maître.
j'ai fait mon travail qui est un très beau métier. J'ai la chance d'exercer un très beau métier.
Frédéric, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur le deuxième dossier.
C'est l'été, Saint-Tropez, Marseille et les Calanques. Viens bronzer, viens vider ta tête et le compte en banque. Y'a que la mer et le ciel bleu qui n'en finissent plus de crier. Ouvre les yeux, regarde un peu sur la mer Méditerranée. Passer les cadavres, papa, passer les cadavres. 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 C'est l'automne, y'a des hommes qui se ramassent à la chapelle. Bête de somme, entassés comme on n'entasse même pas nos poubelles. Grand discours, creux et court pour dire qu'accueillir nous honore. Leur morale fait bien des détours pour ne pas dire qu'ils préfèrent encore voir. Passer les cadavres, papa, passer les cadavres. 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 C'est l'hiver, froid de fer. Ferme les yeux et les frontières. Laisse crever, laisse faire. Comme l'avait si bien fait grand-père. 40 est là, encore une fois. On bégaye comme s'il y avait le choix. Solida, raté pas pour toi. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas aider? On préfère encore regarder. Passer les cadavres, papa, passer les cadavres. 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 Passer les cadavres.
mais y a jamais de printemps ici. Plus rien ne fleurit depuis longtemps. Pourtant y a pas la guerre ici, mais même les fruits sont amers. Les arbres n'ont jamais fleuri ici, les fleurs flétrissent de douleur ici. Les oiseaux ne chantent pas, ils crient. Les humains n'ont pas de cœur ici, bien au chaud caché dans leur havre. Ils se croient en paix à regarder. Passez les cadavres, papa, passez les cadavres. 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 Nos idéaux s'affaissent, on les délaisse, laisse à l'eau. C'est vrai, le canot de détresse voguant vers l'Europe forteresse. Goûte là ma frontière, tout au fond de la mer. Paraît que ça protège les enfants de laisser crever les migrants. Vive le pays des lumières qui laisse des gens à la mer. Vive ce pays de frontières qui fait un commerce de la guerre. Vive ce pays des rien à faire, fais-les affaler comme des caves sur le canapé comme des larves. Regardez passer les cadavres.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission avec maître Marianne Leloup d'Assonville pour son excellent ouvrage « France, terre d'écueil, au cœur de la maltraitance administrative des étrangers chez Rue de l'Échiquier » dans la collection Les Incisives. Alors maître, comme nous n'avons qu'une heure, nous allons traiter d'un deuxième dossier que vous avez intitulé « L'histoire de Samba ». Un sans-papier multi-exploité. Et ça renvoie à une histoire qui a fait un succès cinématographique, qui est l'histoire de Souleymane, qui est un film de Boris Lodjkin, qui est sorti en 2024. Et l'acteur qui racontait sa vie a été primé. Donc on peut acheter le film chez Trigon Film. C'est 48 heures de la vie d'un livreur à vélo. Donc...
Ouais, l'histoire de Souleymane, c'est un film absolument magnifique. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un thriller. Vous savez qu'on est happé en fait, et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer.
Et pourtant, vous êtes habitué de traiter ce genre de dossier.
Mais oui.
Même vous étiez prise.
Oui. Moi,
tellement c'était bien fait.
J'ai été prise, et en sachant que depuis que j'exerce ce métier, malheureusement, j'ai beaucoup de mal. Et à regarder l'actualité et à regarder tout ce qui concerne en fait mes clients, parce qu'en fait c'est trop dur pour moi. Ça me fait tout de suite penser à des personnes que je connais, que j'ai vues à mon cabinet, et ça me bouleverse. Donc j'ai un peu mis une distance quand je suis pas au bureau, et d'essayer de pas trop rester que dans ces sujets. Mais l'histoire de Souleymane, j'ai voulu le voir, et je pense d'ailleurs que
on le recommande.
Mais il devrait être vu par tout le monde. Ça devrait être obligatoire avant d'ouvrir sa grande bouche sur ce qu'on pense de l'immigration,
oui,
et des sans-papiers et des demandeurs d'asile. On devrait voir ce film en fait. Et donc dans mon livre où j'ai choisi de traiter cinq grands thèmes de l'immigration qui sont en fait des thèmes un peu médiatisés sur lesquels tout un chacun pense avoir un peu des infos et connaître des choses.
Ce qui est faux.
risquée. Voilà, exactement. Et c'est en fait, comme je le démontre, c'est énormément de fausses informations. Et donc, le deuxième thème que j'ai voulu traiter, c'est celui des sans-papiers, en racontant l'histoire donc, de Samba, qui est un jeune homme malien qui a fui son pays pour des raisons sécuritaires. Hein. Mmh. Son père et son frère ont été assassinés, mais qui n'a pas obtenu l'asile en France parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les autorités françaises de la véracité de son histoire. Et ça arrive. Hein. Et donc, qui, au bout de plusieurs années de présence, 6 ans ou 7 ans, je crois, a demandé une régularisation, ce qu'on appelle la régularisation. Dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, qui est le code qui s'applique donc, dans cette situation, on appelle ça une admission exceptionnelle au séjour.
AES.
Voilà.
Et il donc, faut 5 ans maintenant de séjour.
Alors non, maintenant il faut 7 ans.
À l'époque de Samba, il fallait 5 ans.
Exactement.
Alors c'est ça qu'il faut que vous expliquiez bien aux auditeurs, c'est que on le dit dans le quatrième de couverture de votre ouvrage, depuis le début des années 80, tous les 2 ans en moyenne, une nouvelle loi immigration est en cours d'élaboration.
Exactement.
Et donc Retailleau, cette AES qui était de 5 ans, par la circulaire Valls, qui était déjà pas fort fantastique, il l'a passé à 7 ans. Donc, vous vous rendez compte, 2 ans de plus.
Oui.
Ceux qui se sont battus pour ne pas avoir la réforme des retraites, vous savez ce que ça coûte 2 ans. Donc, imaginez 2 ans dans la vie d'un sans-papier.
Exactement. En fait, moi, je dis toujours...
Je fais le parallèle.
La vie d'un sans-papier, c'est pas une vie, en fait.
C'est
de la survie.
Voilà.
Ouais. Parce qu'il est tellement difficile, tout est tellement difficile. Se loger, trouver un emploi, survivre sans se faire contrôler par la police, sans se prendre une de ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Parce que maintenant, les gens pensent que les OQTF, c'est pour les délinquants, mais pas du tout. Les OQTF, c'est toute personne qui est prise en situation d'irrégularité, ou pour n'importe quelle autre raison, enfin il en existe
ou tout simplement dizaines. Parce qu'elles ont demandé la régularisation, qu'elles ne l'ont pas obtenue, donc elles ont le QTF.
Exactement, et c'est ce qui est arrivé à Samba. Samba, il remplissait les conditions de cette fameuse circulaire Valls, qui est un texte de l'administration qui date de 2012, et dans lequel on disait, si vous avez 5 années de présence en France, et que vous avez travaillé de façon déclarée pendant plus de 8 mois, eh bien, vous pouvez demander la régularisation, voilà, à condition de payer vos impôts, de parler un peu français, enfin voilà, il y a quand même d'autres choses qui viennent.
Il fallait le niveau A1.
Exactement. Et donc, Samba, il est arrivé en France en 2016, donc il a les 5 ans, il travaille depuis 2017, donc on a fourni 93 bulletins de salaire dans son dossier et 25 documents prouvant sa résidence.
Régulière.
Depuis 2016, en France. Et malgré ça, Samba a reçu un refus de délivrance de la carte de séjour qui a été assorti, comme c'est le cas systématiquement en fait,
d'une OQTF,
une obligation de quitter le territoire français.
Alors, dans quel état vous étiez, maître? Parce que ça, vous le dites dans le livre.
Eh bien, alors, moi, je ne connaissais pas encore Samba. Il est venu me voir quand il a reçu cette décision. Je ne l'avais pas accompagné dans le dépôt de la demande. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fameuse admission exceptionnelle au séjour, le projet est dans le nom. C'est-à-dire que c'est exceptionnel.
Et c'est une loterie.
C'est une loterie. Le préfet fait ce qu'il veut. Et en ce moment, les préfets de France veulent assez peu régulariser. Donc on envoie les sans-papiers au casse-pipe, hein, parce que c'est ça qu'on fait.
Mais ils le demandent. Parce
bien donc, sûr.
On ne peut pas refuser à une personne qui a son dossier de le présenter à la préfecture.
Évidemment.
Je suis bien placée pour en parler, puisque j'aide à faire ce genre de dossier. Et on a des appréhensions de déposer les dossiers, mais les personnes veulent qu'on le fasse pour eux.
Exactement. Alors c'est notre rôle en tant que bénévole bénévole accompagnant ou en tant qu'avocat, parce qu'on peut aussi accompagner des personnes dans le cadre du dépôt de leur demande de régularisation. C'est notre rôle de leur dire si on pense qu'ils remplissent les conditions ou pas. Moi, quand les conditions ne sont pas remplies, je refuse de les accompagner. Alors, ils seront peut-être accompagnés par quelqu'un d'autre, mais je ne veux pas prendre de l'argent pour ça, parce que je ne serai pas alignée avec moi-même. Par contre, voilà, quand les conditions sont remplies...
on a un petit truc au cœur, toujours.
Voilà, oui, bien sûr, et on doit leur dire, c'est là aussi notre devoir de conseil en tant qu'accompagnant, de dire attention, dans le pire des cas, vous aurez un refus avec une OQTF. Et là, les choses deviendront encore plus difficiles.
Voilà.
Et les perspectives de régularisation s'éloigneront encore plus, puisque depuis la dernière circulaire de notre ministre de l'Intérieur actuel...
Bruno Retailleau.
Voilà. Il est écrit que...
Avant, c'était un an. Maintenant, c'est 3 ans.
Oui, alors... c'est même... La circulaire dit qu'on ne régularise pas les personnes qui ont des OQTF. Voilà. Donc c'est quand même, enfin on est dans un espèce de système complètement hypocrite où on accepte que des centaines de milliers de travailleurs en situation irrégulière travaillent, contribuent à l'économie française, payent des impôts, payent des contributions sociales, que leurs employeurs payent des contributions patronales, n'aient aucune retraite, aucun droit au chômage.
Aucune allocation familiale.
Aucune allocation familiale, évidemment, j'en parle même pas.
Aucune allocation au logement. Ils n'ont aucun droit.
Exactement.
Sauf de se taire.
Exactement. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment...
Le symbole du capitalisme.
Oui, c'est une victoire
extrême.
Du capitalisme. C'est une main-d'œuvre corvéable à merci. Moi, j'ai l'habitude de voir des travailleurs en situation irrégulière auxquels leur patron expliquait que, du coup, ils n'ont pas le droit au congé.
Voilà.
Ils n'ont pas le droit à avoir leurs heures supplémentaires payées.
Tout à fait.
Alors, je ne veux évidemment pas faire de généralité parce que je vois aussi beaucoup de petits patrons des restaurateurs, des particuliers qui se battent pour accompagner leurs salariés dans leur régularisation.
Mais pour un qui se bat, il y en a 9 qui en profitent.
C'est
la moyenne.
Voilà, c'est... Et d'ailleurs,
on le médiatise.
Un député m'a dit lors des discussions sur la loi Darmanin immigration de 2024, parce qu'au début, on nous a vendu cette loi en nous disant « on va serrer la vis ». Mais on va régulariser tous les travailleurs sans papier.
Tu parles.
Et pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. La loi dit que le préfet, s'il le veut, peut régulariser les travailleurs sans papier. Et en fait, c'est comme beaucoup de soi-disant réformes qui ont été faites sous la présidence de M. Macron. On nous vend que ce serait nouveau. C'est pas nouveau, en fait. Les préfets de France et de Navarre ont toujours pu régulariser, s'ils le voulaient, les travailleurs sans papier. Donc, voilà. Et ce sont... c'est un syndicat de grands patrons que je ne nommerai pas qui a fait du lobbying pendant les discussions sur cette loi pour dire qu'il ne voulait pas régulariser systématiquement tous les travailleurs sans papier. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les chiffres sont, sont sans appel. Lorsqu'on régularise les travailleurs sans papier, ce sont les salaires de tout le secteur qui augmentent. C'est-à-dire les salaires des travailleurs sans papier, mais aussi les salaires des travailleurs français et des travailleurs étrangers qui ont des papiers. C'est pour ça que le patronat ne veut pas qu'on régularise les travailleurs sans papier.
Et ceux qui sont contre, les travailleurs qui sont contre la régularisation de leurs collègues, ils n'ont rien compris où... Il se tire une balle dans le pied.
Exactement, mais en même temps, dans un pays où 90% des médias appartiennent à des milliardaires d'extrême droite, c'est pas étonnant qu'on nous vende une soupe où on nous fait croire le contraire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se souvienne travailleurs de tous les pays, voilà, on doit s'unir.
Ah oui.
Travailleurs français, travailleurs étrangers, en séjour régulier ou irrégulier, on doit s'unir pour faire valoir nos droits.
Oui. Contre le capitalisme.
Exactement.
Alors, l'OQTF, quand vous voyez ce mot, moi, je pense toujours, et vous le citez dans votre livre, et je vous en remercie, maître, vous dites bien qu'à cause de l'OQTF, on peut expulser des enfants qui sont nés sur le territoire français, alors qu'on avait le droit du sol, avant qu'il y ait les lois Pasqua et Debré. Et donc, ces enfants-là étaient protégés,
oui.
Au moins, et leurs parents avec.
Oui, et ça, c'est, ça fait partie des idées fausses que les gens ont sur le sujet. Ils pensent que quand un enfant est né en France, il va être protégé, sa famille aussi, et pas du tout. Moi, j'en ai vu être mis dans l'avion. Oui. Donc, c'est complètement faux.
Bien, attaquons le dernier sujet. La dématérialisation des titres de séjour. Parce que ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Quand la dématérialisation a été mise en place contre les étrangers, parce que c'est contre,
oui.
On a alerté la société civile en disant ce qu'on prépare, c'est toute la société qui va l'avoir. Et on se rend compte que la dématérialisation a éloigné les plus précaires des services publics, tous les précaires, tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect qui montre bien l'iceberg dans l'iceberg de la maltraitance. La dématérialisation, c'est
épouvantable. En fait, on se souvient tous, en tout cas, moi, j'ai un âge qui fait que je me souviens que quand j'étais plus jeune, je voyais ces files de personnes devant les préfectures.
Oui.
Et maintenant, on les voit beaucoup moins. En fait, elles sont invisibilisées parce que les gens font la queue, mais devant leur ordinateur. Donc là, ça fait plusieurs semaines que j'ai un client qui essaye de prendre rendez-vous pour obtenir le renouvellement du récépissé au il a le droit. Et donc, on lui dit de se connecter tous les lundis matins. Alors, tous les lundis matins, il se connecte de 8h à 10h et il rafraîchit la page. Et il n'arrive jamais à obtenir un rendez-vous. Il n'y en a jamais disponible.
Non.
Et puis ensuite, on lui dit « Reconnectez-vous lundi prochain à 8h. » Et il recommence. Voilà, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a de nombreux bugs également.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui ont leur espace en ligne sur lequel ils sont censés faire leur demande de carte de séjour qui est bloqué, voilà, pour une raison X ou Y. Il y a aussi des procédures qui n'existent pas parce que il y a des conversions de titre de séjour. Par exemple, un étudiant qui devient salarié, bon, ça c'est une conversion qui est hyper classique, dont la préfecture a l'habitude, donc la procédure va exister en ligne. Mais par exemple, à l'inverse, vous allez avoir un salarié qui va peut-être vouloir refaire des études. Mmh. Bon, ça, ce sera pas possible. Donc oui, la dématérialisation a apporté énormément de problèmes et elle fait que, enfin, c'est vraiment, c'est kafkaïen, quoi. On se retrouve donc
avec une fabrique de sans-papiers.
Avec, alors oui,
l'État a fabriqué des sans-papiers grâce à la dématérialisation.
Oui, moi j'ai, je pense que la majorité des personnes que je vois à mon cabinet maintenant, ce sont des personnes qui sont entrées en France avec un visa long séjour, qui ont eu des cartes de séjour pendant plusieurs années et qui aujourd'hui n'arrivent plus pas à faire renouveler leur carte depuis un an, deux ans. Et ce que je dis toujours, c'est imaginez, vous, Français, déjà vous vous plaignez quand vous n'arrivez pas à faire renouveler votre passeport en une semaine avant vos vacances. Mais imaginez si le renouvellement de votre passeport et de votre carte d'identité prenait un an, deux ans, et que pendant cette période, vous n'aviez aucun document justifiant de votre identité,
voilà,
et que votre employeur vous licenciait puisque vous n'auriez plus le droit de travailler, etc. C'est ce que vivent les étrangers aujourd'hui.
Et vous n'avez plus d'argent pour payer votre bail, donc vous êtes à la rue.
Et vous êtes à la rue, et on vous retire les prestations sociales,
voilà.
Si vous aviez droit, par exemple, à des allocations familiales ou à des allocations logement,
parce
qu'on
vous
les
répète,
retire dans cette attente.
On le répète, la CAF ne verse des allocations que si vous êtes en règle.
Exactement. Et voilà, donc ça, c'est une problématique énorme. Et donc moi, je me retrouve, mais toutes les semaines, à introduire des recours devant les tribunaux administratifs juste pour demander au juge de demander à la préfecture de débloquer le compte d'un client, de lui donner un rendez-vous, de lui donner le récépissé auquel il a le droit. Et évidemment, quand je le fais, ça veut dire que j'ai déjà envoyé une dizaine de mails à la préfecture, une lettre commandée, pris rendez-vous au fameux point d'accès numérique des préfectures qui sont dans l'obligation de mettre en place, c'est le Conseil d'État qui l'a dit, mais qui, malgré tout, fonctionne pas très bien, parce que la réalité, c'est que les clients vont à ce rendez-vous et que leur problème n'est pas résolu, et donc ils reviennent bredouilles. Et moi, je trouve ça insensé de mobiliser les professionnels du droit, les associations, les tribunaux, les greffes, des magistrats, juste parce que les préfectures font pas leur travail, en fait. Et ça coûte de l'argent aux Français, à l'économie, aux contribuables, puisqu'il faut bien payer ses magistrats, ses greffes. Et au final, à chaque fois, on fait condamner aussi les préfectures à rembourser ce qu'on appelle les dépens. Donc, les préfectures sont condamnées à payer une partie des frais d'avocat engagés par nos clients, parce que ça ne serait pas normal qu'on doive, que ça reste à leur charge. Et donc, tout ça, ça représente un gâchis financier, alors que les préfectures pourraient juste recruter des personnes pour faire ce métier. En fait, moi, je dis toujours, je ne connais pas de plus grand voyou que l'État français.
Merci.
Ça peut sembler très provocateur, mais la réalité, c'est que moi, mes clients, contrairement à mes confrères pénalistes, ne sont pas des délinquants, en tout cas pour 99% d'entre eux. Par contre, tous les jours, je vois l'État français qui ne respecte pas les droits de mes clients, voire même qui n'exécute pas des décisions de justice prises par des juges français. Et ça, c'est hallucinant. Aujourd'hui, je suis obligée de faire des procédures pour demander l'exécution de décisions que j'avais déjà obtenues. On nage en plein délire.
C'est le travail des associations aussi qui s'adressent à des avocats comme vous, maître, parce que on n'y arrive plus. Alors, dernier focus qui a agité la classe politique pendant quelques semaines et qui continue à agiter la population, la soi-disant modification de l'AME, l'aide médicale d'État. Je voudrais qu'on rappelle les chiffres. L'AME, c'est 3 mois de présence minimum en France. Et c'est tellement compliqué à obtenir, c'est tellement spécifique, que la moitié des gens qui ont droit n'y ont même pas recours.
Oui, et en fait, il y a aussi tout un ensemble de personnes qui ne veulent pas la demander. Je trouve ça toujours très touchant. Quand je demande à mes clients pour préparer les dossiers ou des recours, et je leur dis, il me faudrait les attestations de l'AME, pour ceux qui sont en situation irrégulière. Et ils me disent, ah non, moi, je voulais pas la demander. Et c'est de l'orgueil, c'est une volonté de ne pas peser sur l'État français, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'entendre dire que les étrangers profitent du système, alors que les vrais qui profitent du système, c'est les ultra-riches. C'est les plus grands assistés de France.
Tout à fait.
Je trouve ça toujours très touchant. Donc, il y a plein de gens aussi qui décident de ne pas le demander. Et moi, je suis là, en fait, il faudrait le demander parce que
pour votre dossier.
C'est meilleur pour votre dossier. Et puis, ça vous protège si vous avez des problèmes de santé. Ça protège votre entourage parce qu'on peut être contagieux, etc. Et voilà. Et donc, effectivement, de supprimer l'AME qui coûte...
rien du tout.
Rien du tout, si on compare, par exemple, à la fraude fiscale, au hasard. Je pense que non seulement on met en danger les étrangers et les étrangères en situation irrégulière en France, mais on met en danger toute la population française. Parce que repensons, s'il y avait une nouvelle épidémie, comme on a eu l'épidémie du Covid, le VIH, on n'a pas envie qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui ne soient pas couvertes. C'est dangereux eux. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas de cœur, pardon, mais c'est dangereux pour toute la société française, en fait.
Mais y compris pour vous.
Exactement.
Alors, ne soyez pas des imbéciles.
Voilà.
Laissez l'AME tranquille. Bien.
Tout à fait.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, France, terre d'écueil, c'est peu de le dire, au cœur de la maltraitance administrative des étrangers, aux éditions Rue de l'Échiquier, dans la collection Les Incisives. Donc, vous êtes maître Marianne Leloup d'Assonville. Donc, cet ouvrage coûte 13 euros, mais tout le monde devrait l'avoir et tout le monde devrait le lire pour se rendre compte de la réalité, d'une réalité profonde que je ne cesse de répéter à ceux qui viennent à notre accueil. Et je voudrais en profiter pour faire la bise à tous ceux qui m'aident à recevoir les sans-papiers, les demandeurs d'asile et les étrangers qui ont des problèmes administratifs dans la ville, dans une ville des Hauts-de-Seine que je nommerai pas, mais notamment celui qui dirige le bureau qui est Philippe, je l'embrasse. Le premier fabricant de sans-papiers, c'est l'État français.
Exactement. Et ce livre est vraiment très court et très facile à lire pour des personnes qui ne connaîtraient rien au sujet.
Et ça éclaire.
Exactement. Il y a beaucoup de statistiques et de chiffres pour vous faire votre propre idée et peut-être convaincre d'autres personnes. Et j'espère aussi que ça vous donnera, que ça vous révoltera et que ça vous donnera envie de rejoindre les personnes en France qui essayent, qui résistent et qui essayent de transformer cette France terre d'accueil en une France terre d'accueil.
Merci, Maître. La conclusion est parfaite. Alors, on va remercier Frédéric sans qui il n'y aurait pas d'émission. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Le monde est dangereux. Merci.